Est-ce que mai 68, ça peut être envisagé comme une révolte d'inspiration conseilliste?
Je pense que tu le dis bien en partie au début de ta question, c'est-à-dire que en partie conseilliste, si on considère vraiment d'un point de vue de diffusion des courants intellectuels, des débats intellectuels et stratégiques du conseillisme. Parce qu'en réalité, d'un point de vue d'organisation politique, d'organisation militante, le courant conseilliste en tant que tel n'existe pas ou pratiquement pas, à part dans quelques courants très initiés,
Ouais.
mais c'est très anecdotique et tu l'as bien rappelé, il y a un morcellement à partir des années 20 et une dissolution dans tout un tas de courants qui est à la fois dû en fait à la répression des bolcheviks, mais aussi à de toute façon à l'essoufflement du mouvement révolutionnaire
Oui.
plus général. À partir de 68, en revanche, effectivement, on a enfin autour de l'année 68, et d'ailleurs, il faudrait élargir pas seulement en France, parce que l'année 68 est vraiment une année insurrectionnelle partout dans le monde, hein. Il y a des mouvements très très forts au Japon où le mouvement ouvrier étudiant dure quasiment un an, au Mexique,
La pression
en
des Jeux
France
Olympiques, en
évidemment, à
effet.
Prague, voilà, donc c'est une ébullition partout. Il y a effectivement un retour des idées d'auto-organisation, de conseils, de comités, et d'ailleurs c'est pas pour rien que les idées autogestionnaires vont refleurir très fortement à partir des années 70. C'est, voilà, ça prend racine. On va dire symboliquement en 68, mais en tout cas dans la fin des années 60, je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est qu'il faut remettre en contexte le rôle de la guerre froide là-dedans et l'évolution dramatique hein, du parti bolchevique et de la stratégie soviétique qui est de plus en plus perçue par de nombreux courants révolutionnaires, et notamment par les jeunes, c'est pour ça que le mouvement est fortement étudiant, comme un pouvoir non seulement bureaucratique, mais même un capitalisme d'État hein, dans lequel l'idée de vraiment auto-organisation ouvrière est totalement détruite. Mais voilà, il y a des théories très intéressantes sur le capitalisme d'État
Oui.
en URSS. Et dans ce cadre-là, du coup, l'année 68, elle peut être aussi perçue dans le camp des révolutionnaires ou dans le camp des progressistes, parce que c'est très large, comme une révolte contre l'hégémonie soviétique au sein de ce camp-là. On voit bien que les courants qui sont les plus en vogue, c'est pas tant le conseillisme, mais c'est le maoïsme, le
Oui.
guévarisme. En fait, c'est l'idée, voilà, de contester cette hégémonie, on va dire, marxiste-léniniste classique, cette volonté de moderniser les courants révolutionnaires traditionnels. Et c'est dans ce cadre-là, parce qu'on a notamment une URSS qui étouffe les révoltes, qui étouffe la vie politique, la vitalité des débats, voilà, l'interdiction de tous les autres courants non bolcheviques, etc., que cette résurgence des idées d'auto-organisation, des idées de conseil, elle se fait par l'idée de résurgence démocratique et par cette idée, voilà, de réappropriation par la base et de dire qu'il y a un mensonge dans l'idée du communisme d'État soviétique, dans l'idée d'un partage égalitaire des moyens de production, puisqu'en fait les moyens de production appartiennent à un capitaliste unique qui est l'État, ou à une bureaucratie unique si on préfère, et que les travailleurs, les intellectuels, les étudiants, les ouvriers, les médecins, les étudiants, les enseignants, quelle que soit la corporation, ne sont pas plus maîtres de leurs moyens de production qu'en capitalisme classique. Et donc c'est effectivement cette critique-là renaît très fortement en 68 et va ensuite infuser dans les années 70.
Donc là justement tu évoques les années 70 et en fait depuis jusqu'à même maintenant très actuellement on a quand même un certain nombre de mouvements d'auto-organisation, une défiance envers les partis, envers les syndicats. Notamment nous on a pensé aux années 2000 très récemment en fait avec tous les mouvements assembléistes, Occupy Wall Street, le mouvement des places en Europe, Nuit Debout, certains appels assembléistes des Gilets jaunes. Est-ce que là aussi en fait il n'y a pas quand même une diffusion effectivement de cette idée d'auto-organisation des luttes et des mouvements sociaux contemporains?
Alors si, tout à fait, et je dirais même que c'est peut-être plus vrai aujourd'hui qu'en 68 et dans les années 70. Pourquoi? Parce que, alors peut-être donc redire en un mot, même chose, filiation, pas filiation conseilliste explicite en tant que courant politique, mais préoccupation politique et orientation politique, à mon avis, plus que jamais d'actualité. Pourquoi plus qu'en 68? Parce que un des principes qu'on voit très fort dans ces mouvements assembléistes ou le mouvement des places, très fortement, c'est notamment un débordement des cadres classiques de représentation, y compris des cadres de représentation de classe, à savoir les syndicats et les partis, avec une très forte critique pour des raisons différentes. Au moment de la naissance des courant conseilliste et du courant communiste en général. C'était parce que la social-démocratie était accusée d'avoir trahi l'internationalisme pendant la guerre. Là, c'est plutôt justement une accusation d'une grande partie des syndicats et des partis de s'être bureaucratisés, sclérosés, éloignés des masses et de la spontanéité du grand nombre. Et donc, c'est la critique de ces cadres de représentation qu'on retrouve dans pratiquement tous les mouvements assemblistes. Il faudrait être plus rigoureux parce qu'en réalité, par exemple, si on prend Occupy Wall Street, les syndicats jouent un rôle beaucoup plus important que dans le mouvement des indignés espagnols ou quand dans le mouvement Nuit debout en France. Mais on voit quand même que cette critique, en tout cas au moins des bureaucraties syndicales, de la plupart des partis, elle est très importante. Donc ça, c'est d'un point de vue, on va dire, de ce qui donne la naissance de ces mouvements-là. Ensuite, au niveau, si on parle un peu plus de stratégie et d'idées politiques, il y a des préoccupations très proches des conseillistes. La première, évidemment, c'est un peu ce que je disais sur 68, c'est des principes de réappropriation depuis la base, à savoir extension de l'horizontalité démocratique au maximum en prenant l'organisation depuis l'espace public, depuis les quartiers, plus marginalement depuis les entreprises. C'est ça par contre là qu'on a une grande différence avec l'implantation ouvrière ou pas. Là on est plutôt sur une implantation qui se fait majoritairement dans l'espace public, dans ces mouvements-là. Ce qui est intéressant, hein, ce qui dit aussi quelque chose de la place du travail, on arrive aussi dans une période après 30 ans de destruction néolibérale de toutes les grandes organisations d'entreprise, la flexibilisation, la précarisation du travail qui fait que peut-être, c'est une hypothèse, mais que les repères de politisation sont plus difficiles dans le monde du travail, y compris dans la classe ouvrière, et que donc l'espace public, le quartier, la place publique, les ronds-points sont des nouveaux lieux de socialisation politique. Mais en tout cas, en point commun sur le fait qu'il y a une réappropriation depuis la base, une réappropriation démocratique, une d'organisation qui est centrale. L'autre point central, à mon avis, le deuxième, et puis je m'arrêterai là, même si c'est une discussion qui est très intéressante, c'est sur une vigilance, un contrôle très fort des représentants, des gouvernants, des chefs, des porte-parole. Une méfiance qui va avec cette méfiance envers les cadres classiques de représentation et qui était vraiment une idée centrale que portaient les communistes des conseils vis-à-vis justement du léninisme à l'époque. Et bien aujourd'hui, ces mouvements assemblélistes ou ces mouvements des places, ils portent très fort cette idée non seulement qu'il faut contrôler les représentants, voire ne pas avoir de représentants du tout, ce qui, on voit, pose des problèmes parfois quand il s'agit d'étendre ces mouvements, mais peu importe, en tout cas, il y a cette idée de méfiance envers les représentants et qui dit donc contrôle, voire possibilité de réversibilité d'une relation de commandement politique. Ça, c'est quelque chose qu'on voit très fort dans le mouvement zapatiste. Alors, c'est un petit peu autre chose, mais on est dans un mouvement qui est né au milieu des années 90 avec cette idée de s'organiser avec des porte-paroles qui seraient pas forcément tirés au sort, ils peuvent être aussi élus, mais pour un temps limité, et puis ces représentants deviennent ensuite des représentés, et en fait avoir comme ça une rotation rapide, permanente, de la relation de commandement politique, qui permet d'avoir un plus grand contrôle des chefs, des gouvernants, des porte-paroles. Voilà, je dirais que c'est ces deux choses, donc réappropriation, organisation politique, et contrôle de la verticalité du pouvoir, et non pas, je pense, comme on dit parfois, refus de toute verticalité. Hein. Je ne crois pas qu'on soit majoritairement dans des fantasmes de démocratie absolument purement directe, mais en tout cas, il y a une volonté de contrôle de cette verticalité qui sont des filiations indirectes, à mon avis, parce que, à ma connaissance, pratiquement aucun militant ou activiste de ces mouvements-là ne se revendique du conseillisme. Oui. Bon, encore une fois, c'est très marginal, mais c'est une répercussion indirecte, une renaissance indirecte de ces idées-là et de ces pratiques.
Ok, très bien. Merci pour nous un petit peu avoir défrigé cette question. Est-ce que tu as une actualité de publication à l'heure actuelle ou pas?
Une actualité de publication, mais en anglais, alors ce sera pas forcément accessible à tous, mais il y a un ouvrage chez Palgrave qui va sortir, qui s'appelle, je crois, The German Revolution, qui est un ouvrage collectif sur qui célèbre l'anniversaire de la révolution allemande, le centenaire, et donc je participe avec un chapitre de cet ouvrage collectif, qu'on trouve chez Palgrave.
Ok. Et puis bah pour notre part, pour les auditeurs, on renverra donc soit à ton livre La démocratie des conseils ou pour ceux qui ne peuvent pas l'acheter, aux recensions et à l'extrait qui sont disponibles sur la revue en ligne Contretemps. Eh bien, Johan Dubigeon. Tout à fait. Bon bah Johan Dubigeon, merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de temps pour cette interview. Et puis bah bonne continuation.
Merci, merci de votre invitation.
Au revoir.
Et surtout, la confusion dans la clarté.
Pulsar, c'est bon.
D'accord, personne ne dit le contraire.
Point d'exclamation.
De retour sur le plateau de Fracture. Alors, avant de terminer, on pensait vous donner aussi quelques idées, lectures, et puis quelques publications actuelles aussi, Daria.
Tout à fait, oui. Je voulais juste aussi faire une petite précision. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'Action de Mars, donc qui a été une tentative de soulèvement qui a été fait à la fois par le KPD et par le KAPD, mais qui n'était pas en 1923, mais en 1921. Donc, petite correction. Mais effectivement, on va dire un petit peu l'actualité de la pensée conseilliste. En France, on citera deux revues qui sont animées notamment par Henri Simon, qui est un des grands penseurs du conseillisme, à savoir la revue Échanges et Mouvements, qui date maintenant des années 75, je crois, enfin fin des années 70. Donc ça commence à dater. Donc revue sur l'actualité du spontanéisme ouvrier, des conseils, de toutes les révoltes, ce genre de choses. Le bulletin qui, lui, je crois, est mensuel dans Le Monde, une classe en lutte. Donc là, qui est beaucoup plus factuel, avec des informations beaucoup moins fournies que dans Échanges et Mouvements. Mais qui relève toujours de la pensée du communisme de conseil. On citera aussi les éditions Spartacus, qui, elles, sont des éditions contemporaines qui publient des ouvrages sur approche critique du communisme. Et sur les lectures les lectures un petit peu sur cette thématique, on citera sur la question de la Révolution allemande l'ouvrage de Chris Hartmann, La Révolution allemande, 1918-1923, édité à la Fabrique. On citera quelques sources, et bien Rosa Luxembourg, La Révolution russe, un ouvrage qu'elle a écrit, une brochure plutôt qu'elle a écrite en 1917, publiée de manière posthume et éditée chez Micro-CC en France. On pourra citer aussi l'ouvrage de Henri Simon sur Histoire critique de l'ultra-gauche, qui lui est vraiment plus complet puisqu'il balaye un peu l'ensemble de la question de l'ultra-gauche, du conseillisme, mais aussi de ses suites un petit peu plutôt françaises. Et on pourra citer aussi les ouvrages de Johan Dubigeon, quelques brochures, éventuellement celle de Paul Matic, Spontanéité et Organisation, qu'on peut trouver, tout du moins qui est édité par l'OCL. Et donc après, il y a tout un tas d'ouvrages divers et variés.
Eh ben merci pour tout ça, on te remercie beaucoup. On remercie aussi nos auditeurs, Johan Dubigeon, d'avoir pris du temps pour nous répondre. Et la prochaine émission sera sur l'antinucléaire, hein, c'est bien ça, sur les luttes antinucléaires au niveau
tout
local.
À fait, normalement, on aura une émission sur la thématique de l'antinucléaire, notamment dans le coin.
Ok, eh bien à bientôt tout le monde.
Merci.
Merci. Au revoir. Beaucoup.
Du métro Jules Geoffrin dans le 18e, direction le Dishonored, rue André Messager. Dishonored, c'est le disquaire de la zone nord qui vient d'ouvrir. On part à la découverte de ce magasin tenu par Vincent Privat et